Radio Kapi.
À la une, ce bilan plutôt positif à un mois des opérations militaires d'envergure menées dans le cadre de l'état de siège dans Beni, Téné, les sanctuaires et tous les quartiers généraux de l'ADF démantelés et occupés par l'armée et leur logistique rendue obsolète, vous entendrez le porte-parole des FARDC. La problématique de l'indépendance et de la politisation de la CENI a été débattue hier au Sénat. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le Sénat a apporté certains amendements, explications dans ce journal. Et puis, l'invité, Billy Kambale, nouveau secrétaire général de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, il s'exprime notamment sur le déroulement du procès en appel de Kamerhe et l'évaluation de l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri. Madame, Messieurs, bonjour. Les opérations militaires d'envergure menées dans le cadre de l'état de siège pour mettre un terme principalement à l'activisme de l'ADF dans le territoire de Beni ont donné des résultats probants. Selon le porte-parole des FARDC qui le dit, tous les sanctuaires, toutes les places fortes, tous les quartiers généraux de l'ADF ont été démantelés et occupés par l'armée. Toujours d'après lui, la fabrique d'armes traditionnelle de l'ADF a été détruite et sa logistique rendue obsolète. Ce bilan du premier mois de l'état de siège a été donné hier à Kinshasa. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe, gouvernement, FARDC et police nationale. Je vous propose de suivre un extrait de l'adresse du porte-parole des FARDC, le général Léon Richard Kasonga.
Aujourd'hui, au plan opérationnel, dans la province de l'Ituri, nous avons intensifié les opérations contre l'ADF, contre le groupe armé Codeco, mais également contre le FPIC et alliés. Dans l'Ituri, 39 terroristes et miliciens ont été neutralisés. 5 ont été capturés. Nous avons récupéré plusieurs armes et cela a eu comme conséquence heureuse la reprise de l'activité socio-économique. Évidemment, ça se remarque également par la rouverture des écoles, des marchés, mais également du commerce. Il y a présentement la libre circulation des personnes sur la route nationale numéro 27. Et pour matérialiser les conquêtes militaires, les forces armées ont défait, chassé et récupéré 20 localités qui étaient investies par ce mal cancérisé. Dans la province du Nord Kivu, il y a des opérations qui sont menées là-bas, appelées Sokola 1 Grand Nord, dans les territoires de Beni, dans les villes de Butembo et tout autour. Nous avons contrôlé et occupé toutes les places fortes de l'ADF et ses forces supplétives locales. Nous avons neutralisé 35 ADF, dont 14 étrangers. Nous avons capturé 5 leaders de l'ADF. Nous avons appréhendé 70 collaborateurs.
Et si le bilan dressé par l'armée est aussi élogieux, comment expliquer alors les massacres intervenus pendant la période de l'état de siège? En tout cas, le porte-parole des FARDC explique, ces massacres ont été perpétrés, selon lui, par des terroristes en débandade et qui se sont mis à tuer les populations sur leur passage ou dans les lieux où ils se sont réfugiés en guise de représailles. Une fois de plus, suivez le général Kasonga.
Nous avons dit que nous avons mené des opérations pour sécuriser les grandes agglomérations. Et nous les avons sécurisés et complètement protégés. Mais les éléments terroristes qui ont échappé à nos frappes ont quitté Beni, se sont dirigés vers Tchabi et sont allés vers Boga. Dans leur débandade, au titre de représailles, tous ceux qui le croisent sur la route, ils les tuent. C'est aussi clair que cela. Ce n'est pas que nous avons des effectifs moindres par rapport à nous. Eux, ils ne sont pas plus nombreux que nous. C'est une guerre asymétrique. Ils ont été tapés, ils ont été défaits. N'oubliez pas le mot des terroristes quand ils opèrent. Ils veulent des actions d'éclat pour que l'on parle d'eux. Et ils ne parlent pas. Ils font parler leur exploit macabre. Mais ce qui est vrai, ils évitent d'affronter les forces régulières parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Je sais que vous allez parler de Boga et de Tchabi. Mais vous savez que Boga et Tchabi, c'est des localités où il n'y avait pas de problème de sécurité. Il n'y avait pas de problème d'ordre public. Tout était calme, tout baignait dans la paix. Mais quand ces voyous ont été défaits et délogés de leur quigé, ils se sont dirigés vers des endroits très calmes, où les gens vivaient en harmonie, en paix. Ils sont venus, se sont intégrés dans les communautés locales, des nuits, et ils ont commencé à opérer en tuant des gens.
Pour sa part, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a insisté sur le fait que cette guerre contre les terroristes de l'ADF et leurs collabos étant asymétrique, il faut la collaboration de tous pour la gagner. Pour Patrick Mouyaya, la population doit faire bloc autour de l'armée pour vaincre définitivement ses assaillants. On l'écoute.
Nous sommes en face d'un mouvement terroriste parce que lorsque vous n'êtes pas dans un front, l'armée opère grâce aux renseignements notamment, surtout quand il s'agit de suivre des forces négatives qui se mêlent dans la population. Si la population ne collabore pas, le général a dit tout à l'heure qu'il y avait des ADF ont des collaborateurs. Ils ont recruté parmi nous. Et donc ça veut dire qu'il y a une dimension de renseignement qui implique la population pour que nous puissions arriver à mettre fin à cette situation. Et lorsque vous apprenez qu'il y a des massacres, qu'il y a des attaques massives sur le civil, ça veut dire que l'ennemi est traqué. Ça veut dire que l'ennemi n'arrive plus à supporter la puissance de feu et il s'attaque vers des cibles non civiles, vers des cibles faciles. C'est pour ça que d'ailleurs nous disons que c'est une guerre asymétrique, c'est du terrorisme et pour lequel nous avons besoin de l'implication de tous à côté de nos forces armées pour arriver à y mettre fin.
Tous les extraits sonores que vous venez de suivre ont été proposés par Pele Kipela Mondo. En Ituri, cependant, les avis divergent sur les résultats des 30 premiers jours de l'état de siège. Pour la société civile, aucune opération militaire de grande envergure n'est encore menée par l'armée. Cette structure fait remarquer que les violations des droits de l'homme se sont accrues et que 157 personnes ont été tuées par des miliciens. De son côté, la coalition de l'Union sacrée estime que l'état de siège a permis de récupérer certains villages qui étaient occupés par les groupes armés. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Les unités commandant lancé l'offensive contre plusieurs positions des miliciens de la Côte d'Éco en territoire des Djougou depuis que l'état de siège a été décrété en Ituri le 6 mai dernier. Bilan, plus de 20 villages récupérés par l'armée, mais aussi la réouverture du trafic sur la route nationale numéro 27. Les forces loyalistes ont également délogé les miliciens de la FPIC de Nyankunde et Marabo dans les territoires d'Irumu. Pour la société civile de l'Ituri, ces actions sont insignifiantes car les actions des groupes armés ont continué, notamment les meurtre des 157 personnes en 30 jours, l'enlèvement des 32 personnes et les pillages ou incendies de plusieurs maisons et véhicules. Son coordonnateur Dieudonné Lossa indique que l'armée sensibilise les miliciens au lieu de les traquer.
L'accent mis sur la sensibilisation plutôt que sur la traque des groupes armés par les gouverneurs, le message propagandiste de l'armée alors qu'il n'y a aucun groupe armé défait jusqu'à ce moment.
Le vice-gouverneur de la province indique que son gouvernement utilise plusieurs approches pour la restauration de la paix en Ituri, notamment la force et la sensibilisation des fils égarés à déposer les armes. Le général Benjamin Alongaboni.
La guerre a quand même des paramètres. Nous devons connaître le terrain, connaître la position de la population, connaître l'ennemi. Et la guerre n'est pas seulement résolue par les armes. Il y a certaines approches que nous devons aborder, notamment la sensibilisation.
Signalons que l'armée en Ituri a été dotée de 2 hélicoptères et l'effectif des militaires a été également renforcé. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Par ailleurs, l'état de siège en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et en Ituri ne peut marcher que s'il s'exécute en considérant un plan global et non seulement militaire. Pour le parti politique UNC, Union pour la Nation Congolaise, il existe un plan de sortie de crise élaboré depuis des années par son président national Vital Kamerhe. Ce plan prend en compte divers volets, notamment humanitaires, fonciers, socioculturels et la réinsertion communautaire des démobilisés. Dans une interview en marge de sa prise de fonction comme secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale recommande au gouvernement de consulter ce plan sous la houlette de son auteur Vital Kamerhe. Billy Kambale s'exprime au micro de Billy Vantumba.
On ne peut pas aller dans une région qui a vécu la guerre pendant 20 ans prétendre qu'en un mois, on peut résorber le conflit. Non, le conflit est pluridimensionnel. Il y a le volet aussi économique qui est entré dedans. Vital Kamerhe a toujours prôné une intégration économique de telle manière que nous puissions dire à nos voisins, au lieu de venir à travers les groupes armés, venez par la grande porte pour exploiter nos ressources et que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. Vital Kamerhe avait publié les plans de sortie de crise depuis qu'il était président de l'Assemblée nationale. Kamerhe a conduit le processus de paix dans ce pays. Ce plan comportait le volet qui prend en compte la réinsertion communautaire des démobilisés. Parce qu'un enfant qui a déjà touché aux armes, il y a tout un processus pour les réintégrer et les réinsérer socialement dans la communauté. Pourquoi les différents gouvernements qui se sont succédés ne peuvent pas prendre ce plan qui est bien élaboré pour l'appliquer et ramener définitivement la paix dans ces régions que nos amis aillent le chercher là où il est et qu'il leur propose ses idées?
L'anéantissement des groupes armés nationaux et étrangers et la coopération avantageuse dans les pays des Grands Lacs sont parmi les priorités du gouvernement dans le cadre des objectifs de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de cet accord à l'occasion de la télé de réflexion sur le plan d'action de la stratégie régionale des Nations Unies pour les Grands Lacs, atelier qui se tient à Kinshasa du 9 au 10 juin 2021, donc hier et aujourd'hui, sous la direction de l'envoyé spécial Xia Wang. On écoute le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Patrick Mutombo Kambila, au micro d'Honoré Missenga Kalala.
C'est d'abord la sécurité et la lutte contre les groupes armés qui écument l'Est de la République. Vous avez vu que le chef de l'État a anticipé en mettant sous pied l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'intensification des actions militaires. Et la deuxième priorité, c'est la coopération régionale avantageuse dans tous les secteurs. Le secteur du commerce transfrontalier, le secteur des renseignements, le secteur de l'industrie, le secteur des infrastructures. Vous avez certainement vu que dernièrement, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont signé un protocole pour la construction d'une route. Donc le développement des infrastructures sur le plan régional afin de booster le développement de la région. Toutes ces actions-là constituent pour nous les priorités sur lesquelles nous ne pourrons pas les ignorer.
Tous les pays de la région des Grands Lacs ainsi que tous les acteurs parties prenantes de l'accord cadre d'Addis Abeba prennent part à cet atelier, soit physiquement à Kinshasa, soit par vidéoconférence dans plusieurs points de l'Afrique. Madame Bintou Keïta et le coordonnateur humanitaire ainsi que des représentants de l'Union africaine aussi prennent part à cet atelier de réflexion. Je vous le disais en titre, la problématique de l'indépendance et de la politisation de la CENI au cœur du débat hier au Sénat. La Chambre haute du Parlement a examiné en deuxième lecture la proposition de loi organique dite Lutundula portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Après son adoption à l'Assemblée nationale, cette loi a été aussitôt transmise au Sénat, examinée par la Commission politique, administrative et juridique qui l'a soumise au débat général au cours de la plénière d'hier. La plupart des préoccupations exprimées par la société civile ont été remises sur la table par les sénateurs. Michel Kifindangoy nous en parle.
Après examen de la mouture adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, la PAJ du Sénat a apporté certains amendements, notamment au niveau des dispositions se référant à l'indépendance de la CENI, ainsi qu'aux fonctions des membres du bureau de cette institution. Au cours du débat général, certains sénateurs, comme Célestin Vounabandi et Vicky Katoumoua, ont plaidé pour le renforcement de l'indépendance des membres qui seront désignés au bureau de la CENI. Vicky Katoumoua.
Il faut vraiment que cette loi soit parce que nous autres, nous sommes victimes de la CENI. J'ai été remplacé le jour de la publication des résultats. Quand je devrais être député, moi j'aurais préféré, par contre, que la CENI ait à son sein uniquement des personnalités qui proviennent de la société civile.
Fustigeant le manque d'indépendance actuelle de la CENI, le sénateur Mokolo Apombo propose que cette institution soit totalement apolitique.
À chaque cycle, l'organisation des élections a perdu en qualité et en crédibilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas dépolitiser la CENI? Si on arrivait à des institutions stables, il faudrait remettre au ministère de l'Intérieur ses prérogatives.
Tous ces amendements sont donc transmis à la commission PAJ pour un examen approfondi.
Pendant ce temps, l'Église du Christ au Congo demande aux sénateurs d'user de leur sagesse pour recadrer la proposition de loi Lutundula portant organisation, fonctionnement et attribution de la Commission électorale nationale indépendante. Ce recadrage, d'après le porte-parole du président de l'ECC, doit plus concerner la neutralité, l'indépendance et la dépolitisation de la CENI. Le pasteur Eric Senga est au micro de Jeff Ngoy.
Nous voulons demander au Sénat, qui représente la sagesse de la nation, de pouvoir recadrer les choses, parce que vous savez que l'honorable Bahati a lutté à côté de la société civile tout le temps. Donc nous recourons à lui personnellement, à son bureau et à tous les sénateurs pour voir nos deux revendications, notamment celle de la neutralité ou de l'indépendance ou de la dépolitisation de la CENI, essayer de réduire sensiblement le nombre des délégués politiques pour laisser les bureaux être dirigés par la société civile. Deuxièmement, la question du contrôle des mécanismes de contrôle qu'on a mis en place pour essayer de veiller sur la traçabilité, la rélevabilité de la CENI. Car vous savez que parmi tout ce qui a été reproché à la CENI dans sa gestion, il y a surtout et notamment la question de la rélevabilité. Donc il est important pour nous que le mécanisme de contrôle qui a été mis en place revienne dans le texte.
Actualité Afrique Monde.
Le président du Burkina Faso estime que les Africains devaient se ressaisir et s'unir pour lutter contre les djihadistes qui déstabilisent l'Afrique de l'Ouest. Rochmark Christian Kabore réagit ainsi après que son pays a subi l'attaque la plus meurtrière de son histoire récente. Le président Kabore l'a déclaré à l'issue d'une rencontre à Ouagadougou avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Le président ghanéen également, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a lui aussi estimé que si nous ne mettons pas ensemble, nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme, a-t-il déclaré.
L'invité.
Billy Kambale, nouveau secrétaire général de l'UNC, investi lundi dernier, est notre invité, comme annoncé. Dans une interview accordée à Radio Kapi, il s'exprime sur le déroulement du procès en appel de Vital Kamerhe, l'évaluation de l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri, ainsi que sur l'élan de solidarité en faveur des populations de la ville de Goma à la suite de l'éruption volcanique. Le nouveau secrétaire général de l'UNC répond aux questions de Billy Vandutumba.
Billy Kambale, bonjour.
Bonjour.
Vous prenez les rênes de l'UNC à un moment particulier pour l'histoire de votre parti. Vous êtes maintenant secrétaire général. L'affaire en appel de Vital Kamerhe, votre président national, a été prise en délibéré. D'ici la semaine prochaine, la Cour va se prononcer. C'est quoi votre morale personnelle et celui du parti par rapport à ce cas?
Je voudrais saluer les auditeurs de Radio Okapi. Notre président national avait été condamné au premier degré. Nous sommes partis en appel. Après plusieurs jours qui se sont écoulés, nous avons constaté justement qu'il y avait un problème avec les juges au second degré. Voilà pourquoi il y avait l'une des parties, notamment la partie Massaro, qui avait récusé les juges. Malheureusement, nous avons assisté à un spectacle qui n'existait pas en droit. Lorsqu'un juge est récusé, il doit se déporter automatiquement. Mais dans ce que nous avons constaté lors des audiences qui se sont déroulées la semaine passée, nous avions constaté qu'il y avait une sorte d'acharnement. Et nous disons à tout le monde que pour nous, ce procès a été un procès qui était un mal jugé. Tout le monde qui était dans la chaîne de la défense avait reconnu avoir effectué les opérations pour verser l'argent directement dans les comptes de M. Djamal. Mais où est le problème de Vital Kamerhe dans tout ça? Voilà pourquoi nous avons toujours dit que nous avons à face de nous un complot politique.
Vous parlez de complot contre Vital Kamerhe. Qui tire les ficelles contre Vital Kamerhe? Il faut quand même crever l'abcès.
Nous finirons par crever l'abcès. Mais nous disons qu'en ce moment, nous n'en sommes pas encore là. Parce qu'il y a un garant du bon fonctionnement des institutions qui peut mettre un terme. Nous disons au président de la République qui garant du bon fonctionnement des institutions de la même manière qu'il était intervenu pour sauver les députés lorsque la Cour constitutionnelle avait validé de manière cavalière les députés qui étaient réellement élus. Nous lui demandons que pour cette fois aussi qu'il puisse s'impliquer pour corriger cette erreur d'un mal jugé, mais dont nous avons senti au second degré une brutalité. On a senti l'autosuffisance.
Et que ferez-vous en ce moment-là si on arrivait à ce scénario-là que Vital Kamerhe soit condamné encore au second degré?
Très certainement, le temps va changer. L'UNC ne va pas laisser bras croisés pendant que son président, un innocent, va continuer à croupir en prison. Ça, c'est des uns. Sur le plan politique, nous allons prendre des options et certainement, nous serons dans les rues de la République démocratique du Congo. Jusqu'à ce que notre président soit libéré. Deuxièmement, nous allons saisir la Cour de cassation et bien évidemment, nous irons dans les cours des tribunaux au niveau international.
Autre fait, c'est lui qui concerne l'état des sièges. 30 jours sont passés. Au niveau de l'UNC, comment évaluez-vous cette période d'état des sièges et c'est quoi les suggestions que vous pourrez faire dans les deux provinces?
Nous avons salué tous l'avènement de l'état de siège parce que nous pensons que toutes les solutions qui peuvent être explorées pour amener la paix dans la région du Kivu, mais aussi à l'Ituri, mais aussi au Tanganyika, c'est bien. Mais nous avons toujours ramené les gens à consulter l'histoire. Il y a un grand homme qui a conduit le processus de paix dans ces pays. Rappelez-vous que Vital Kamerhe a négocié la résolution, notamment amenant la MONUSCO, à l'époque la MONUC dans ce pays. Il y a des gens qui y ont travaillé. La fosse Artemis qui avait négocié ça. C'est Vital Kamerhe. C'est un conseil que je donne. Allez les consulter pour qu'ils vous donnent les plans de sortie de crise qu'il avait publié depuis qu'il était président de l'Assemblée nationale. Un enfant qui a déjà touché aux armes, il y a tout un processus pour les réintégrer et les réinsérer socialement dans la communauté. Pourquoi les différents gouvernements qui se sont succédés ne peuvent pas prendre ces plans qui est bien élaboré pour l'appliquer
et ramener définitivement la paix dans ces régions.
Et Vital Kamer était directeur du cabinet du chef de l'État, on le rappelle. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait aux côtés du chef de l'État pendant qu'il était encore libre?
Quand il était directeur du cabinet du chef de l'État, ce n'était qu'un simple administratif.
Mais en tant que nationaliste et patriote, il a des idées, il n'a qu'à le proposer à sa hiérarchie.
Maintenant, je vous le propose, que nos amis aillent le chercher là où il est et qu'il leur propose ses idées.
Et la conclusion de l'UNC par rapport à ces 30 jours d'état de siège, c'est quoi? Ça marche ou ça marche pas?
Non, mais ça n'a pas marché parce que justement, le plan n'est pas global.
Autre fait d'actualité, c'est l'éruption volcanique dans le Nord Kivu. Les chefs de l'État, le Premier ministre ont appelé à un élan de solidarité de manière générale. Comment l'UNC répond à cet appel?
Je voudrais d'abord présenter mes très sincères condoléances à toutes les familles éplorées, bien que la Bible dit « quand la main droite donne, la main gauche ne doit jamais connaître ». Mais pour besoin de sensibilisation davantage de l'opinion, nous sommes obligés de le dire, le président Vital Kamerhe a consacré l'entièreté de ses indemnités de sortie en tant que directeur de cabinet du chef de l'État pour venir en aide. En Ituri, à travers Caritas, aux déplacés de guerre, il a donné une partie à Goma et à Nyiragongo pour soutenir les victimes de la catastrophe naturelle de l'éruption volcanique, toujours à travers Caritas. À Bukavu, il a donné une partie pour les déplacés qui ont fui l'éruption volcanique de Goma et une autre partie pour la réhabilitation du homme de l'ISP Bukavu. Et j'en appelle à d'autres leaders politiques d'emboîter les pas pour qu'ensemble nous puissions trouver des réponses aux problèmes qui se posent et surtout soutenir cette chaîne de solidarité.
Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC, nous vous disons merci pour votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Billy Vandutumba. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. L'actualité continue sur toutes les plateformes numériques de Radio Kapi. Merci de nous avoir suivis.